Voilà, donc nous sommes le samedi saint. Le samedi saint, il ne se passe pas grand-chose. C'est une journée d'attente. Voilà, notre Seigneur est au tombeau, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de cérémonie spéciale. Donc on est dans l'attente de la résurrection avec la Vierge Marie qui est accablée par ce qu'elle a vécu le vendredi saint et en même temps gardant la foi et l'espérance pour toute l'Église, voilà, sachant que notre Seigneur allait ressusciter. Alors cet après-midi, ce matin, pardon, il a été parlé de la cérémonie de ce soir, donc je ne vais pas y revenir, bien sûr. Donc là, j'ai plutôt parlé de la résurrection de notre Seigneur, puisque c'est là que nous nous dirigeons. Donc d'abord l'événement lui-même et les apparitions de Jésus ressuscité au dimanche de Pâques. Voilà. Donc je vous lis d'abord les faits dans l'Évangile selon saint Matthieu. Quand le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, se rendirent au sépulcre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, et s'approchant, il renversa la pierre et s'assit dessus. Son visage était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. À cause de lui, les gardes furent atterrés d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Ne craignez point, vous, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Hâtez-vous d'aller le dire à ses disciples. » Voilà, nous allons essayer d'établir une chronologie de la première Pâque, du premier dimanche de Pâques. Voilà. Ce jour doit être cher à notre cœur, parce que c'est le premier jour, on peut dire, de la nouvelle création, de ce monde nouveau, inauguré par le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, et la nouvelle Ève, Notre-Dame, et nous sommes rentrés dans ce monde nouveau au jour de notre baptême. Voilà. C'est un monde nouveau, cette fois, dans l'histoire de l'humanité. Il n'y aura pas d'autre nouveau. Notre Seigneur est ressuscité dans la nuit, pas au matin de Pâques. En effet, saint Jean dit, lorsque Marie-Madeleine arriva au tombeau, il faisait encore nuit. Et il était déjà ressuscité quand elle est arrivée. Donc il est ressuscité dans la nuit. Probablement à minuit, probablement. Pourquoi? Parce que l'Annonciation a eu lieu à minuit, la Nativité a eu lieu à minuit, la naissance, la résurrection à minuit, hein, tout se tient, bien sûr. Donc notre Seigneur est ressuscité dans la nuit, sortant du tombeau sans en briser la porte. C'est pas lui qui, boum, a brisé la porte. Il n'avait pas besoin de briser la porte parce qu'il a traversé le mur. Donc sortant du tombeau sans en briser la porte, comme il était sorti du sein de la Vierge Marie à Noël, sans porter atteinte à sa virginité. C'est deux fois. Voilà. Et jusqu'au matin, eh bien, les gardes gardaient un tombeau vide. Alors il fallait montrer que notre Seigneur n'était plus là. Donc au petit matin, un ange est descendu du ciel. C'est lui qui a roulé la pierre pour montrer aux gardes que le corps de notre Seigneur n'y était plus. Nous venons de le lire dans saint Matthieu. Et ils ont vu l'ange puisqu'il s'était assis dessus. Son visage était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Effrayés, ils se sont enfuis à Jérusalem, racontés aux princes des prêtres ce qu'ils avaient vu, et ceux-ci les payèrent pour qu'ils se taisent. Voilà. Ils ont su qu'il était ressuscité. De toute façon, ils ont su aussi que le vendredi saint, fallait pas faire ça. Voilà, c'est ça. Que le rideau du temple se soit déchiré, c'était impossible à déchirer. Le temple, c'était énorme. Enfin, ils se sont ouverts en deux, ils sont bien aperçus, et puis le tremblement de terre, etc. D'ailleurs, la foule a quitté le calvaire en se frappant la poitrine. Ils ont bien su tout ça. C'était aveuglement terrible. C'est incroyable, incroyable. De toute façon, quand notre Seigneur déjà avait ressuscité Lazare, eh bien, la solution qu'ils avaient trouvée, c'est pour arrêter le trouble, enfin, que pour eux cela causait dans la ville, il faut mettre Lazare à mort. Effrayant l'aveuglement, jusqu'où peut aller l'aveuglement chez les hommes. Bon. Pourtant, eux qui avaient tout le temps reçu, enfin, c'est dans le, ils ont été préparés pendant des siècles à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, encore les païens autour, mais eux. Alors, tandis que les saintes femmes arrivaient au tombeau et constataient qu'il était vide, Notre Seigneur réservait sa première apparition à sa Sainte Mère. Donc, dans une révélation qu'il a faite à Sainte Thérèse d'Avila, notre Seigneur dit que l'accablement de la Divine Mère était si profond que lorsqu'il se montra à elle, elle eut besoin de quelques moments pour revenir à elle-même avant d'être en état de goûter une telle joie. Et le Seigneur ajouta qu'il resta longtemps auprès d'elle parce que cette présence prolongée lui était nécessaire. Et donc Béranger, à ce propos, dans l'année liturgique, fait une remarque intéressante. Il dit, c'est oui, au temps pascal, tome 1, le Saint-Évangile ne raconte pas l'apparition du Sauveur à sa mère, tandis qu'il s'étend sur toutes les autres. La raison, dit-il, en est aisée à saisir. Les autres apparitions avaient pour but de promulguer le fait de la résurrection. Donc, il fallait montrer à tout le monde qu'il était ressuscité. Les rapports intimes après notre Seigneur et Notre-Dame, ça c'est autre chose, c'est pas nécessaire. Donc celle de l'apparition de notre Seigneur à la Vierge Marie était réclamée par le cœur d'un fils et d'un fils tel que Jésus. La nature et la grâce exigeaient à la fois cette entrevue première. Elle n'avait pas besoin d'être consignée dans le livre sacré. La tradition des pères, à commencer par saint Ambroise, suffit à nous la transmettre. Parce qu'elle en a parlé aux apôtres et ça nous est arrivé par les pères. Voilà. Ceci pour répondre à l'objection actuelle des modernistes, des progressistes. Ah, c'est pas dans l'écriture, donc ça. Les deux sources de la révélation sont l'écriture et la tradition. La tradition, c'est ce qui a été transmis par les apôtres et qui n'a pas été écrit. Et les apôtres ont transmis ce que notre Seigneur leur a enseigné. Le Saint-Esprit leur a tout rappelé, parce que comment se rappeler, même le détail du discours après la scène. Le Saint-Esprit leur a rappelé, ils n'ont pas pris des notes pendant le discours, impossible. Voilà. Et en même temps, le Saint-Esprit leur a enseigné des choses que notre Seigneur leur a pas enseigné aussi. Et notre Seigneur l'avait dit aussi cela. Enfin, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T, c'est tout cet ensemble qui a été livré par les apôtres, qui a été transmis par l'Église, assisté par le Saint-Esprit. Voilà. Donc dire c'est pas dans l'Évangile, c'est une réflexion de protestants qui ne considèrent que la Sainte Écriture. Et d'ailleurs, on peut répondre aux protestants, mais l'Évangile, il nous vient d'où? Parce qu'il n'a pas été écrit immédiatement, ça a été prêché avant d'être écrit. Alors donc l'Évangile, il nous vient de la tradition, c'est la tradition qui nous a donné l'Évangile, c'est l'Église catholique. Bon. Donc notre Seigneur est d'abord apparu à sa mère, ensuite il est apparu à Sainte Marie Madeleine, les deux qui étaient au pied de la croix. Sainte Marie Madeleine qui était restée au tombeau après que Pierre et Jean. Donc les saintes femmes arrivent au tombeau, il est vide. On va prévenir les apôtres. Et alors Saint Pierre et Saint Jean vont en courant, parce que c'est pas possible, en courant au tombeau pour constater que le tombeau est ouvert. Sainte Marie-Madeleine arrive avec eux aussi, bien sûr. Et une fois que les apôtres ont constaté que le corps de Jésus n'y était plus là, bon ben, ils ne restent pas, ils repartent au Cénacle pour avertir les autres. Et Sainte Marie-Madeleine, elle reste là. Les apôtres n'ont pas vu notre Seigneur à ce moment-là. Hein. Ils ont vu seulement le tombeau vide. Il fallait qu'ils le voient. Bon, et puis que... Et comme Sainte Marie-Madeleine est la première qui a annoncé aux apôtres eh bien, que Jésus était ressuscité, après avec les saintes femmes, elle a couru elle-même au Cénacle, elle est arrivée avant les saintes femmes, eh bien, elle a mérité le titre que lui décernera l'Église. Sainte Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. Les apôtres qui auront mission d'annoncer la résurrection au monde entier, c'est elle qui l'a annoncé aux apôtres. Non, elle est l'apôtre des apôtres. C'est pour cette raison, une parenthèse ici, qu'elle a été instituée entre autres protectrice de l'ordre dominicain, un ordre de prêcheurs, d'avis apostolique, voilà, l'ordre dominicain, auquel le Saint-Siège avait confié la garde du corps de Sainte-Marie-Madeleine dans la basilique de Saint-Maximin en Provence, et puis la grotte de Sainte-Marie-Madeleine aussi aux dominicains. Donc malheureusement, les dominicains ont aujourd'hui abandonné la basilique de Saint-Maximin, mais ils gardent toujours la grotte de la Sainte-Baume. Donc Sainte Madeleine, Marie-Madeleine revient Pierre et Jean repartent au Sénat, elle reste là. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que notre Seigneur va lui apparaître. C'est la deuxième personne à qui il va apparaître. Donc, juste après sa mère, il avait voulu apparaître à l'ancienne pécheresse, grande pécheresse convertie, pour montrer qu'il était venu sur terre pour sauver ce qui était perdu. Et donc pour qu'aucun pécheur, quels que fussent ses péchés, ne désespère jamais de son pardon. Notre Seigneur ne permettra pas que Sainte Marie-Madeleine le touche, ne me touche pas. Donc au début, notre Seigneur a permis qu'elle ne le reconnaisse pas. Elle pensait que c'était le jardinier qui était là. Elle dit, mais enfin, où l'avez-vous mis? Et puis moi, je vais aller le chercher, etc. Et tout. Et notre Seigneur l'appelle, Madeleine, et puis elle le reconnaît à sa voix, et puis il permet qu'elle le reconnaisse. Et elle veut, ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur n'a pas permis à Sainte Marie-Madeleine de le toucher, alors qu'il permettra aux saintes femmes avec qui il va apparaître après de le toucher? Et ça, c'est une réflexion d'un commentateur de l'Évangile, voilà, le Père Thiriet, dominicain, voilà. Pourquoi, ô mon Sauveur, ne permettez-vous pas qu'elle vous touche tant que vous êtes encore sur cette terre, vous qui allez vous laisser toucher par vos disciples, vous qui allez permettre aux saintes femmes de vous baiser les pieds? Non. Avec saint Augustin, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, je crois que vous avez voulu l'élever à des pensées plus hautes. Vous avez voulu l'élever à la pensée de ce ciel qui est votre demeure vraie. Vous avez voulu l'élever à des pensées plus parfaites que cet amour encore inquiet dans lequel elle vous cherchait. Elle était déjà montée plus haut sur le plan spirituel. Après sainte Marie-Madeleine, notre Seigneur se montre aux saintes femmes. Il se montrera aux saintes femmes qui sont encore en route quelque part. Notre Seigneur apparut aux saintes femmes pour les récompenser de l'avoir servi pendant sa vie publique et de lui être resté fidèle jusqu'au tombeau. Pendant le Vendredi Saint, pendant la crucifixion de notre Seigneur, elles étaient au loin, puis de toute façon pour approcher avec les soldats et tout ça, la foule. Donc elles regardaient de loin, mais elles étaient là. Et puis après, elles sont venues au tombeau. Voilà. Dès qu'elles ont pu, les premières heures du jour, vite, vite, quand le sabbat est terminé, vite, vite, on va au tombeau pour acheter des arômes, tout ça, voilà, pour embaumer. Et puis elles avaient discrètement, parce qu'on en parle très peu, discrètement servi notre Seigneur et les apôtres pendant toute la vie publique, pendant les 3 ans. Donc il a voulu les récompenser. Notre Seigneur apparut ensuite à Saint-Pierre. Évidemment, c'était nécessaire, c'est le chef. Le chef, il veut montrer que malgré son reniement, notre Seigneur le considère toujours comme le chef, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus. Et puis Saint-Pierre a regretté, notre Seigneur le sait bien. Parce que le pauvre Saint-Pierre, il était complètement abattu par la mort de son maître et plus encore par son triple reniement, la nuit de jeudi au vendredi saint. Donc il a fallu que notre Seigneur vienne conforter celui sur lequel il allait fonder son Église. Alors on ne connaît aucun détail sur cet événement, mais cet événement se trouve quand même dans l'Évangile, il est juste mentionné par les apôtres aux pèlerins d'Emmaüs à leur retour à Jérusalem. Les apôtres lui disent, il est apparu à Saint-Pierre et à nous. Ah tiens, il a parlé sur Saint-Pierre, on n'en sait pas plus, ça ne nous regarde pas. Il y a une intimité entre le pape et le chef de son Église, voilà. Dans la soirée, notre Seigneur va se montrer aux pèlerins d'Emmaüs. Ceux-ci étaient venus rapporter aux apôtres. Ah oui, voilà, oui, ça se montre au pèlerin d'Emmaüs, voilà. Mais c'est ça, il va se montrer, vous connaissez l'épisode, c'est le lundi de Pâques, l'évangile du lundi de Pâques. Voilà. Ils reviennent de Jérusalem complètement abattus, et bien il y a quelqu'un qui marche avec eux sur le chemin, ils le prennent avec eux, on parle ensemble, etc. Et puis... de quoi vous entretenez-vous? Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Il le sait au courant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il sait bien ce qui s'est passé. Mais ils ne le reconnaissent pas pour le moment. Voilà. Puis c'est l'hospitalité orientale, écoutez, il commence à faire nuit, et venez chez nous, on vous offre le repas, et puis vous coucherez là, voilà, très bien. Voilà. Et puis voilà, pendant le repas, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Alors c'est dans Saint-Luc et dans Saint-Marc, et quand on parle de la fraction du pain, souvent, faut savoir ce que ça veut dire. Saint Augustin nous donne l'explication. Toujours l'écriture, on a besoin de l'explication par la tradition. Voilà. Donc les fidèles, écrit Saint Augustin, à l'époque, la fraction du pain, c'est la messe. Voilà. Les fidèles, écrit Saint Augustin, savent ce que signifie cette parole, ils le reconnurent à la fraction du pain. Ce pain, dit Saint Augustin, n'était pas un pain quelconque, c'était le pain qui, par la bénédiction du Christ, devient le corps du Christ. Voilà, c'est ça. Donc, les apôtres ont marqué dans l'évangile fraction du pain, parce qu'à l'époque, tout le monde savait ce que ça veut dire. Voilà. Et nous le savons par les pères de l'Église, et nous en sommes certains. Voilà. Bon, il n'y a pas de doute. Alors, et puis notre Seigneur disparaît, voilà, c'est ça. Bon, voilà, donc, alors il retourne au Cénacle, et quand ils arrivent au Cénacle, eh bien, les apôtres leur disent que, voilà. Oui, c'est ça, ils reviennent au Cénacle en disant qu'ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ, et pendant qu'ils parlaient, voilà, Jésus parut au milieu d'eux, voilà, apparition cette fois, aux apôtres et puis aux disciples d'Emmaüs qui sont là. Il y a seul saint Thomas qui n'est pas là. Jésus parut au milieu d'eux et leur dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez et voyez. De toute façon, si vous voulez, les rapports entre notre Seigneur et sainte Marie-Madeleine, c'est des rapports de vie mystique, je dirais. Voilà. Donc les apôtres, ils vont être les prédicateurs de l'évangile et de la résurrection de notre Seigneur. Il faut qu'ils puissent dire, nous avons touché, il a mangé devant nous, il a mangé avec nous. Voilà. Donc, c'est bien moi, touchez et voyez. Et puis, plus les évangiles de la semaine de Pâques nous montreront encore d'autres apparitions de notre Seigneur, où il mangera avec eux, où il se fera toucher, voilà. Et encore une deuxième fois, la semaine d'après, avec saint Thomas qui est là, l'apôtre saint Thomas. Alors, on pourra s'étonner que notre Seigneur soit apparu à ses disciples à Jérusalem. Parce qu'il avait dit très clairement aux saintes femmes, « Dites à mes frères de partir pour la Galilée, c'est là qu'ils me verront. Oh, » Qui partent tout de suite pour la Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et puis il va les voir, en fait il les a vus à Jérusalem. Que se passe-t-il? Notre Seigneur ne ment pas, il ne s'est pas trompé. Mais le témoignage de... Parce que, si vous voulez, ils n'ont pas cru, ils ne seraient jamais partis en Galilée, parce qu'ils n'ont pas cru les saintes femmes. Le témoignage des saintes femmes qui ont dit ben, il n'est plus dans le tombeau, et puis il nous est apparu. Voilà. Saint Luc dit, le témoignage des saintes femmes parut aux apôtres comme du délire, et ils ne les crurent point. Oh ben non, mais c'est leur émotion depuis le Vendredi Saint, alors maintenant, c'est du délire complet. Les apôtres, c'est des gens, des pêcheurs, des gens qui ont les pieds sur terre, mais bon, juste, bon, qu'est-ce que c'est ça? Alors il a fallu qu'il se montre ressuscité à ses disciples à Jérusalem pour qu'ils se décident. Ben là, ils vont aller en Galilée, bien sûr, parce que là, évidemment, il va y avoir... C'est en Galilée que pendant 40 jours, il va fonder son église, en fait. Il va leur expliquer en 40 jours tout ce qu'il faudra faire. Et puis après, hop, Pentecôte, et on se disperse. Très important, ces 40 jours. C'est très bref dans l'évangile, mais c'est fondamental. Pour les sacrements, etc. et tout. Moi, l'essentiel, la matière et la forme des sacrements a été fixée à ce moment-là. C'est deux fois, hein, notre Seigneur Jésus-Christ, les sept sacrements. Et alors, c'est par cette apparition de notre Seigneur au Cénacle à ses apôtres que s'est terminée cette journée glorieuse entre toutes. Alors, notre Seigneur continuera à se montrer à de très nombreux témoins en Galilée après le jour de Pâques. En mère très sage, l'Église relate tous ces événements dans les évangiles de l'octave de Pâques, jour après jour, pour nous fortifier dans ce qui est le fondement de notre foi. On peut dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas apparu aux Juifs, au Sanhédrin, etc. et tout. Bon, ben, il ne le méritait pas, c'est tout. Il avait suffisamment de miracles, ils étaient. Bon, c'est pas la peine. Voilà. Alors voyons maintenant la résurrection de notre Seigneur, qui est à la fois un fait historique et en même temps qui est le fondement de notre foi et qui est un mystère de foi. La résurrection de notre Seigneur est un fait historique, capital à tenir, bien entendu, que des témoins très nombreux ont constaté avec leur sens. D'ailleurs, le pape Saint Pie X, dans le décret du Saint-Office Lamentabili, le 3 juillet 1907, a condamné la proposition moderniste suivante. Ce que je vais vous lire, c'est ce qui est condamné, attention. Faut pas lire à l'envers. Ce qui est condamné. La résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait de l'ordre historique, mais un fait de l'ordre purement surnaturel, ni démontré, ni démontrable, que la conscience chrétienne a peu à peu fait découler des autres. Voilà, c'est ça. Et je suis sûr que malheureusement, les prêtres et les évêques doivent enseigner cela aujourd'hui. Donc celui qui était vraiment mort sur la croix, et d'ailleurs le centurion l'a bien prouvé en mettant sa lance dans le côté de notre Seigneur, celui qui était vraiment mort sur la croix s'est ensuite montré vivant. Il a mangé avec ses apôtres, il s'est fait toucher par eux, pour montrer qu'il ne voyait pas un esprit, mais qu'il était bien ressuscité avec son vrai corps. Donc, on pourrait parler longtemps là-dessus, et c'est très important. Enfin, là, j'ai pas le temps ce soir, mais enfin, il y a des ouvrages d'apologétique qui ont traité ce sujet en long et en large, parce que cela le mérite, évidemment. Parce que, donc, c'est un fait historique fondamental, dans l'histoire de l'univers, d'ailleurs, la première fois et la seule fois on verra une chose pareille, c'est que cette résurrection, donc, est le fondement de notre foi. C'est ce que dit l'apôtre Saint Paul très clairement dans l'épître aux Corinthiens. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et vaine aussi est votre foi, puisque vous croyez à notre prédication. Non, non, c'est vain s'il n'est pas ressuscité. Nous sommes alors même convaincus d'être de faux témoins à l'égard de Dieu, comme ayant rendu ce témoignage contre Dieu même qui l'a ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et en même temps, si vous voulez. Parce que c'est la résurrection de notre Seigneur en même temps qui fonde notre foi dans la résurrection des morts, au jugement général. Et si le Christ n'est pas ressuscité, ben les morts ne ressusciteront pas non plus, s'ils ne pouvaient pas ressusciter. Donc, si le Christ n'est pas point ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, ce qui, parce que vous avez cru que notre Seigneur détruisait le péché. Ceux qui sont morts dans le Christ ont donc péri. Si nous n'avions d'espérance dans le Christ que pour cette vie, nous serions les plus misérables de tous les hommes. Et dans sa prédication, d'ailleurs, notre Seigneur a souvent parlé de sa résurrection, même si les apôtres n'ont pas compris sur le moment. Ben pour nous, nous avons la foi, c'est facile, mais ce n'était pas si facile à l'époque quand ce n'était pas encore produit. Dans Saint Matthieu, par exemple, chapitre 12, cette génération méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Aussi Saint Luc, chapitre 18, voici que nous montons à Jérusalem, et que s'accomplira tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Il sera livré aux païens, tourné en dérision, outragé, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, on le mettra à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. La résurrection de notre Seigneur devait donc être la confirmation la plus éclatante de sa prédication, en particulier au sujet de sa divinité. Il a prouvé lui-même que sa prédication était vraie en se ressuscitant. Et s'il n'était pas ressuscité, puisqu'il avait annoncé sa résurrection, s'il n'était pas ressuscité, tout son enseignement se serait effondré, aurait perdu sa crédibilité. Alors, bien sûr, en même temps, il ne faut pas confondre le fait historique de la résurrection constatable par les sens. On l'a vu mort, on l'a vu ressuscité, et on l'a touché, il a mangé, etc. On a vu les deux. L'acte de foi, c'est ce qui s'est passé entre les deux. Comment ça s'est passé? Il n'y avait personne dans le tombeau. Et même s'il y avait quelqu'un, comment expliquer ce qui s'est passé? Donc il ne faut pas confondre le fait historique constatable par les sens, et qui est fondamental, et l'acte de foi qui concerne d'autres vérités sur la résurrection, des vérités qui sont inaccessibles aux sens et à la raison naturelle. Et ce n'est pas le fait de mettre sa main dans les plaies de Jésus ressuscité, important à comprendre, qui a donné la foi aux apôtres et à l'apôtre saint Thomas. Comme le dit saint Grégoire le Grand, saint Thomas a vu une chose et il a cru une autre à partir de cette chose qu'il a vue. Il vit un homme et il confessa qu'il croyait à un Dieu. Il n'a pas vu le Dieu, il a vu l'homme. En voyant que l'homme était ressuscité, cet homme est Dieu. Donc il a vu quelque chose et il a cru une autre. En disant, mon Seigneur et mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est parce que l'enseignement de notre Seigneur, d'ailleurs inaccessible à notre seule raison, tout en des mystères qu'il a enseignés, même sur la Trinité, etc., bon, ça nous dépasse complètement. On pouvait pas, aucun homme ne pouvait arriver par le raisonnement à décrire le mystère de la Sainte Trinité. C'est lui qui nous l'a enseigné, mais ça a été confirmé par ses miracles, et spécialement par le plus grand des miracles, qui est sa résurrection. Même les autres miracles, à la limite, des prophètes dans l'Ancien Testament, on avait fait, bon, d'une autre manière. Ils avaient, mais enfin, là, on voyait bien que c'était par sa propre puissance, évidemment. Mais bon, c'est surtout sa résurrection qui est le miracle des miracles. Voilà. Et c'est à partir donc du moment, si vous voulez, où nous savons par l'histoire, par le témoignage de l'histoire, nous avons la certitude historique que notre Seigneur était mort et qu'il est ressuscité. À partir de ce moment-là, nous pouvons faire le saut de la foi dans l'enseignement de notre Seigneur, inaccessible à notre raison naturelle. Vous comprenez? Le saut de la foi dans tout ce qu'il nous a dit, et qu'on ne pouvait pas trouver par nous-mêmes, par exemple la Sainte Trinité, le plan de Dieu sur nous, etc. C'est-à-dire, c'est pas à partir de là que nous pouvons croire en tout ce que notre Seigneur a dit et qui nous a été transmis par les apôtres et par l'Église, parce que notre Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper, puisqu'il est Dieu. Et l'acte de foi que nous faisons dans tout l'enseignement de l'Église, qui n'est que celui de notre Seigneur, eh bien, cet acte de foi est surnaturel, et il est provoqué par une grâce actuelle, il est provoqué par un secours surnaturel, transitoire, de Dieu, qui permet à notre intelligence d'adhérer à ces vérités qui la dépassent. Et à ce moment-là, nous recevons la vertu surnaturelle de la foi. Donc, si vous voulez, on a besoin de la raison pour dire que le saut de la foi, c'est le saut, ça doit, c'est un saut raisonnable. Il s'appuie sur des raisons sérieuses. Voilà, la résurrection de notre Seigneur. Je fais le saut. Si c'était, s'il n'y avait pas des raisons sérieuses de faire le saut, ce serait insensé de faire un tel saut. Et parce que c'est un saut qui change toute notre vie. Changer toute notre vie pour faire des choses, on ne sait même pas sur d'où ça vient, etc. Non, ça c'est... Donc il faut tenir à la fois le fait historique, parce que c'est capital, sinon on ne peut pas faire le saut de la foi. Voilà. Bon. Alors bien sûr, le saut de la foi que nous... D'abord la foi, nous l'avons reçue à notre baptême, ce don de la foi... Je parle surtout des personnes qui se convertissent et qui arrivent à la vraie religion, mais en même temps, bah, elles étudient un petit peu, elles réfléchissent voilà. Sur le plan raisonnable, si vraiment ce qu'on dit c'est fondé sur des arguments raisonnables. Voilà. Alors nous ça n'a pas été la résurrection qui a été fait le saut de la foi au début, nous l'avons reçu la foi. Mais après, évidemment, de toute façon, quand notre intelligence s'est éveillée, nous avons reçu le catéchisme et tout, tout ça nous a été enseigné. On a dit, oui, ben là, c'est ça qui nous a fortifiés. Hein. Mais la résurrection en elle-même, voilà, nous savons, il était mort, il est ressuscité, mais la résurrection en elle-même, comment ça s'est passé? Ça aussi, le saut de la foi, c'est pas seulement, si vous voulez, par rapport à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi par rapport à ses résurrections. Elle-même. On le voit, mais comment est-ce possible? Mais maintenant, il est bien ressuscité. Comment est-ce possible? Ah, mystère. On est bien dedans. Donc, qu'on ait vu notre Seigneur mort puis ressuscité, c'est une chose. La manière dont s'est produite la résurrection et ses propriétés essentielles, personne ne pouvait le voir. Et c'est ce que nous enseigne saint Thomas d'Aquin. La résurrection du Christ était hors de portée de la connaissance commune quant à son point de départ, c'est-à-dire lorsque l'âme du Christ est revenue des enfers et que son corps est sorti du sépulcre fermé. Voilà. Le départ de la résurrection, c'est l'âme qui sort des enfers, qui vient dans le corps qui sort, voilà. Et à son point d'arrivée, lorsque le Christ a acquis la vie glorieuse. Voilà, maintenant il est glorieux. Alors ça, c'est notre Seigneur qui l'a enseigné, qu'il est descendu aux enfers, etc. Et tout ça, c'est du domaine de la foi, tout ça. Mais même quand on dise aux gens d'aujourd'hui qui sont incrédules, vous pouvez pas nier. Vous pouvez pas nier qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Personne ne peut le nier. C'est pas sinon, c'est de la mauvaise foi, c'est tout. Vous voulez pas voir, bon, ça c'est autre chose, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas le droit de le nier raisonnablement. Et vous devriez faire le saut de la foi. Voilà. Nous ne pouvions avoir connaissance de ce mystère, de l'âme qui est revenue dans le corps, que par notre Seigneur qui nous l'a révélé. Alors, quelles sont les caractéristiques uniques de la résurrection de notre Seigneur, telles que la foi nous les enseigne? Donc, le catéchisme du Concile de Trente, dans son explication du cinquième article du symbole des apôtres, du Credo, il rappelle d'abord donc que contrairement aux autres personnes qui ont pu être ressuscitées miraculeusement par la prière d'un saint, ou par notre Seigneur aussi, Lazare, notre Seigneur s'est ressuscité lui-même. Ça, c'est de la foi, hein, rester lui-même. Comme le dit saint Paul, d'ailleurs, c'est la foi, et ça nous est enseigné dans l'Écriture. Il est ressuscité par sa propre foi. Non, non. Non, ça, c'est le catéchisme du Concile de Trente. Enfin, c'est la foi. Et il s'appuie sur saint Paul. Il est ressuscité par sa propre force et sa puissance personnelle, genre de résurrection qui lui est propre et qui ne se trouve qu'en lui seul. La nature ne permet pas et ne fut jamais, il ne fut jamais donné à personne de passer par sa propre vertu de la mort à la vie. Cela n'était réservé qu'à la souveraine puissance de Dieu. Il s'est ressuscité par sa propre vertu, dit saint Paul. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que sa mort sur la croix avait séparé le corps et l'âme de notre Seigneur. La mort, c'est cela. Donc, mais le corps et l'âme de notre Seigneur étaient toujours restés unis à la seconde personne divine. Le corps de Jésus mort sur la croix, le corps de Jésus dans le tombeau, restaient unis à la seconde personne de la Sainte Trinité. Ce n'est pas un cadavre. Le cadavre, c'est le corps qui commence à se décomposer quand l'âme est séparée du corps. Bon, là, l'âme est séparée du corps, mais le corps ne pouvait pas se décomposer parce qu'il restait uni à la personne divine. Ça n'a jamais été un cadavre, le corps de notre Seigneur. Faut pas se tromper. Donc, le corps et l'âme de notre Seigneur, qui étaient toujours restés unis à la seconde personne divine, la personne divine les a réunis au jour de Pâques, au matin de Pâques, dans la nuit de Pâques. D'autre part, on peut dire que la résurrection de notre Seigneur, donc, premièrement, il s'est ressuscité lui-même. Deuxièmement, sa résurrection est une résurrection que l'on peut qualifier de parfaite, parce que c'est une résurrection qui n'est pas provisoire, mais qui restera toujours, bien sûr. Encore le catéchisme du Concile de Trente. Si nous voulions seulement parler de ce retour à la vie qu'accompagne encore l'obligation d'une seconde mort, beaucoup d'autres avant Jésus-Christ étaient ressuscités aussi, mais tous revenaient à la vie pour mourir de nouveau ensuite. Ils sont morts deux fois. Pas agréable la mort, pas facile, deux fois encore. Bon. Jésus-Christ, au contraire, après avoir soumis et dompté la mort, est ressuscité de manière qu'il ne pouvait plus mourir, comme le prouvent clairement les paroles suivantes de saint Paul. Jésus-Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et la mort désormais n'aura plus d'empire sur lui. Elle est vaincue. Pour lui, elle est vaincue pour toujours. Pour nous, c'est retardé. La victoire viendra à la résurrection. On peut encore passer par là parce que c'est un châtiment du péché. On n'a pas enlevé le châtiment. Les conséquences de la résurrection maintenant. Eh bien, la résurrection de notre Seigneur, ce n'est pas seulement un fait qui le concerne lui et qui est le fondement de notre foi. La résurrection de notre Seigneur agit. Et comment? Encore pour nous aujourd'hui. La résurrection de notre Seigneur est la cause de la résurrection de nos âmes aujourd'hui. Et elle sera la cause de la résurrection de nos corps au dernier jour. Je vais expliquer, c'est saint Thomas d'Aquin qui explique ça. D'abord, c'est la résurrection de notre Seigneur qui est la cause de la résurrection de nos âmes, la résurrection par rapport du péché, sortir du péché. Parce que c'est l'humanité glorieuse de notre Seigneur qui agit maintenant sur nous pour nous donner la grâce, pour ressusciter nos âmes. Donc l'humanité glorieuse de notre Seigneur, qui sert maintenant d'instrument à la divinité pour causer la grâce dans nos âmes et qui les fait vivre d'une vie nouvelle. Notre Seigneur maintenant, on peut dire que le centre du monde, c'était la terre qui était le centre de l'univers, si vous voulez maintenant. Et maintenant, le centre de l'univers, il s'est déplacé. C'est là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps glorieux dans le ciel, et c'est de là qu'il gouverne le monde entier, dans tous les détails, les moindres détails. Et en particulier, c'est de là-haut qu'il intervient à chaque fois que quand nous prions et que la prière nous obtient des grâces, quand nous recevons un sacrement et que le sacrement nous obtient des grâces. C'est notre Seigneur qui agit directement, son Seigneur glorieux, c'est sûr glorifié qui agit maintenant sur nous, sur nos âmes. Et cette vie nouvelle que notre Seigneur nous donne du haut du ciel, elle a pour modèle, elle a un modèle, eh bien la vie de Jésus ressuscité après Pâques, voilà, c'est ça. Comme le dit saint Paul, de même que le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi que nous marchions dans une vie nouvelle. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors nous allons donner plus de détails sur cette nouvelle vie, mais voyons d'abord aussi les conséquences de la résurrection, on a vu pour notre âme et pour notre corps. Alors ça, ce sera au jour de la résurrection générale, parce que c'est le Christ glorieux qui ressuscitera nos corps comme nous, comme lui il s'est ressuscité. Comme le dit encore saint Paul, le Christ est ressuscité, c'est un grand théologien saint Paul, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui dorment dans la mort, car c'est par un homme, Adam, que la mort existe, et c'est par un homme, le Christ, qu'existe la résurrection des morts. Donc c'est l'humanité glorieuse du Christ qui servira d'instrument à la divinité pour ressusciter nos corps au dernier jour et les rendre semblables à son corps de gloire. Donc de là où il est, il va sortir tous les corps. C'est ça. Alors attention, tout le monde ressuscitera, même les damnés, mais les damnés, ils ne ressusciteront pas dans un corps glorieux, ils ressusciteront pour souffrir avec leur corps dans l'éternité. Pour le moment, ils souffrent que dans leur âme. Ça sera encore une souffrance supplémentaire, ça, ça c'est avec leur corps. C'est terrible. Donc il est intéressant de regarder le nouvel état qu'aura notre corps quand même après la résurrection générale et pour toute l'éternité. Saint Thomas d'Aquin aussi en parle. Alors disons bien, et c'est important d'en parler, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans l'Église moderne, résurrection, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est très flou, parce que les pauvres, c'est pas de leur faute, on leur enseigne plus rien. Donc en préambule, disons que notre âme reprendra le même corps. Ah ben c'est pas les mêmes cellules, ça s'est dissous, etc. Mais vous savez, même au cours d'une vie, nos cellules, elles sont remplacées, c'est toujours notre corps, hein. On dit même, paraît-il, même on disait que le cerveau, ça ne se remplaçait pas, il paraît que, enfin, moins certaine, c'est ça. Alors, c'est pourtant, on n'a pas changé de corps. Hein. Notre Seigneur, la puissance divine peut très bien remettre des atomes autour de l'âme pour que ça reconstitue un corps, et que ce sera le même corps. Pourquoi? Parce que la résurrection concerne le corps qui était tombé par la mort, et si l'âme ne reprenait pas un corps semblable, on ne parlerait pas de résurrection, mais de l'union de l'âme avec un nouveau corps. Non, ce n'est pas avec un nouveau corps, c'est même le même corps. Alors, dans un plan plus philosophique, on n'a pas le temps de s'attarder, mais ce serait. Notre âme ne peut animer que notre corps, et pas un autre. Notre âme, elle peut pas. Mon âme ne peut pas animer le corps. Impossible. Même que disposition de cellules, etc. L'âme est faite pour ce corps-là, pas pour un autre. On ne peut pas ressusciter avec un autre corps. Tant mieux, on retrouvera nos amis quand même. Sinon, on ne se reconnaîtrait pas. C'est n'importe quoi. Alors, quant au nouvel état dans lequel notre corps se trouvera après la résurrection, il y aura donc quatre qualités, c'est intéressant à connaître, l'impassibilité, la subtilité, l'agilité et la clarté. C'est ce qui nous attend pour l'éternité. La terre, ça passe vite. Hein. Ça passe vite, mais... À un certain âge, on dit, oh là là, déjà où? Et après, dans l'éternité, ça nous paraîtra loin, notre vie sur terre, loin. Mais c'est pour toujours qu'on sera dans cet état-là. Donc il faut savoir dans quel état nous serons. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Quand on va en voyage, on dit, où est-ce qu'on va? Oh, ben, je sais pas. Alors, si le voyage est difficile, on dit, oh, j'en ai assez, on arrête. Mais si c'est extraordinaire, non, non, on continue, il pleut, tout ça, on continue, il faut y arriver. Ah, aussi, dans les difficultés, les croix de cette terre, savoir un peu ce qui nous attend, c'est quand même, c'est normal, où est-ce qu'on va? Voilà. Le bon Dieu aussi nous a indiqué où est-ce qu'on allait. Voilà. Bon, faut pas imaginer des choses, les témoins de Jéhovah qui se retrouvent sur cette terre-là en se promenant avec leurs chiens, tout ça, c'est complètement ridicule. Voilà. Alors, les quatre qualités du corps glorieux après notre résurrection, c'est encore dans saint Paul. Semé dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible, c'est l'impassibilité. Semé dans l'ignominie, il ressuscite glorieux, c'est la clarté, on va expliquer. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, c'est la subtilité. Alors saint Thomas d'Aquin explique, l'impassibilité, cela signifie qu'aucune modification ne pourra se produire dans le corps qui pourrait porter atteinte à sa perfection. Parce que donc le corps, cette fois, sera animé, enfin l'âme sera une âme glorifiée. Et l'âme glorifiée dominera parfaitement la matière après la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes tributaires de notre corps, hein, même quand on est fatigué, etc. et tout. Tandis que là, c'est l'âme qui dominera, glorifiée, qui dominera parfaitement la matière de notre corps. Voilà. Donc, résultat, impossibilité de la souffrance, impossibilité de la maladie, impossibilité de la mort, bien entendu. Ni souffrance, ni maladie, ni mort. Ni souffrance physique, je veux dire, ni maladie, ni mort. Ensuite, la subtilité. Ce qu'on appelle la subtilité, c'est l'entière soumission du corps à l'esprit. Le corps est en quelque sorte spirituel. On doit dire en quelque sorte, parce que ce n'est pas la transformation du corps en esprit. C'est pas une espèce de fantôme qu'on sera avec l'apparence du corps. Non, non. Les apôtres ont pu croire que c'était un fantôme quand ils étaient sur le lac. Mais non, 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 c'est lui, il est monté dans la barque. Après, il a mangé avec eux. Donc, on pourra toucher le corps. Donc, attention, le corps, c'est une espèce de vague esprit, puis on reconnaîtra, ce sera notre forme, mais pas ça du tout. Et notre Seigneur, donc, a bien mangé devant ses apôtres. Alors, bien sûr, au ciel, après la résurrection générale. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle la subtilité, c'est pas une transformation du corps en esprit, mais c'est une entière soumission du corps à l'âme glorifiée. Voilà. Alors, comme c'est un vrai corps, quand même glorifié, voilà. Eh bien, notre Seigneur a pu manger avec ses apôtres. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de manger ni de boire, mesdames, vous n'aurez plus à faire la cuisine. Mais en soi, au ciel, nous pourrions manger et boire. On n'aura pas envie. Nous pourrions, parce que c'est un vrai corps, on n'aura pas besoin. Donc on n'aura pas envie de manger. On aura autre chose à faire. On ne pensera pas à ça. Nous, c'est pour se maintenir qu'on mange là-bas. Bon. Donc le corps sera un parfait instrument de l'âme, c'est-à-dire il ne gênera plus l'âme dans ses opérations, il ne l'appesantit plus. Voilà. Donc si vous voulez, nous notre corps, si on a mal à la tête, on peut plus travailler, si on est fatigué le soir, il faut que je me couche, j'arrête, j'en peux plus. Etc. Évidemment, le corps il nous gêne quand même. Hein. C'est bon. Là, non, non, plus du tout. Alors, il ne faut pas tomber dans une erreur aussi. Ce n'est pas cette qualité de la subtilité qui a fait que notre Seigneur ait pu sortir du tombeau sans rouler la porte, qu'il ait pu rentrer dans le cénacle sans ouvrir la porte. Non, non, c'est pas. Le corps subtil reste un corps. Donc, il se cognerait. Ben, si on peut, on pourra se dire bonjour, s'embrasser avec nos gens de notre famille, etc. Donc il peut pas traverser un. Il pourrait pas, tra... il a pas pu, tra... il a pas traversé le tombeau grâce à la stupidité, à la subtilité. Et d'ailleurs, c'est pas son corps glorieux, c'est pas son corps glorieux. Mais... Il n'avait pas besoin de cela pour traverser le tombeau. Quand il est né, la nativité, il n'était pas glorieux. Il a traversé le corps de Notre-Dame sans porter atteinte à sa virginité. Il n'est pas né comme les enfants actuels. Voilà. Bon. Donc c'est pas la subtilité, ça. C'est un miracle qui a fait qui peut passer comme ça d'une pièce à l'autre. Et voilà. Seul un miracle nous l'explique. Mais ce n'est pas la nouvelle qualité du corps. Parce que ce sont de vrais corps. C'est important quand. L'agilité, qu'est-ce que c'est? C'est une conséquence de la subtilité. Le corps glorieux étant entièrement soumis à l'âme, il pourra se trouver à l'instant suivant au lieu où l'âme voudra qu'il soit, et ceci sans effort ni fatigue. Vous avez dû prendre la voiture, le train ou simplement à pied pour venir ici, dans le ciel, pas instantanément. L'instant d'après, on ne peut pas être instantanément dans un autre endroit. L'instant d'après, on pourra se trouver là où nous voulons aller. Vous avez retrouvé, il y a votre ami là-bas, oh loin, oh, là. Tout de suite, voilà. Vous lui dire bonjour, ah t'es au ciel, ça fait plaisir. Comme dit le prophète Isaïe, en prophétisant, les élus courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point, ils seront comme des étincelles qui courent à travers le chaume. Saint Thomas dit, ils se mouvront, bougeront aussi bien pour glorifier Dieu par l'exercice des facultés qu'ils posséderont, que pour charmer leur regard par les magnificences de la création renouvelée. C'est un peu un mystère, on ne sait pas trop ce que c'est cette création renouvelée. Voilà. Cependant, ce mouvement ne diminuera en rien leur béatitude qui consiste dans la vision de Dieu dont ils jouiront partout où ils seront. On ne sera pas comme des gens figés dans le ciel comme ça, regardant Dieu. On pourra se promener, enfin aller. Ça reste mystérieux, hein, mais on pourra, comment, etc. Les détails, alors c'est pas la peine d'imaginer n'importe quoi, mais c'est tout à fait vivant, hein, comme de la manière, si vous voulez, même la vision béatifique, l'esprit est pris totalement par la vision de Dieu, mais en même temps, on peut réfléchir, se rappeler la vie qu'on a menée sur Terre, faire des raisonnements, etc., tout en même temps, hein. Et la dernière propriété des corps glorieux sera la clarté. Ce sera très beau, on sera tous très beaux. Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Cette clarté proviendra d'un rejaillissement de la gloire de l'âme sur le corps. Elle sera donc plus ou moins intense selon le mérite de l'âme glorifiée. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, dit saint Paul. Ainsi en est-il pour la résurrection des morts. Donc la gloire de l'homme, de l'âme sera révélée par la gloire du corps, comme la couleur d'un objet par le cristal qui le contient. Donc selon la gloire, chacun aura une gloire différente, selon le degré de charité qu'il aura eu à l'instant de sa mort, et bien selon l'intensité de la gloire qu'il aura, le corps sera plus ou moins, tous les corps seront lumineux, magnifiques, mais il y en a qui seront encore plus que d'autres. Conséquence pour la vie de notre âme aujourd'hui, alors ça c'était pour plus tard, mais ça a même aussi des conséquences spirituel pour la vie de notre âme aujourd'hui, l'étude des corps glorieux donne un nouvel éclairage sur les conséquences de la résurrection de notre Seigneur pour la vie des âmes. Il y a beaucoup d'auteurs, un certain nombre d'auteurs spirituels qui ont mis en parallèle les qualités des corps ressuscités et les qualités de l'âme régénérées par le baptême et vivant de la grâce sur cette terre. Donc de même qu'à la résurrection, le corps de notre Seigneur devint impassible, ne pouvant plus être sujet à la souffrance, la grâce sanctifiante nous permet, ben, non pas de ne plus souffrir, mais avec la grâce de Dieu, de ne plus être abattu par la souffrance physique ou morale, mais de la dominer, de lui donner une valeur rédemptrice pour le péché, pour le nôtre, pour le péché, le nôtre et celui de notre prochain. Comme le dit un chartreux, la sainte impassibilité de l'âme est cette disposition morale qui fixe l'âme dans le bon plaisir divin, à ce point qu'elle ne cesse d'y adhérer malgré les plus vives répulsions de la nature, évidemment, dans la croix. C'est l'accueil doux et patient, réservé à toute croix venant de Dieu, parce qu'on y trouve un principe de sanctification et de salut. Ensuite, de même que la subtilité fait du corps glorieux le parfait instrument de l'âme, eh bien, vivons de la résurrection de notre Seigneur en étant d'une docilité toujours plus parfaite aux moindres inspirations du Saint-Esprit. Comme le dit le père Maximilien Kolb, imaginons que nous sommes un pinceau dans la main d'un peintre infiniment parfait. Que doit faire le pinceau pour que le tableau soit le plus beau possible? Et notre vie, ben c'est un tableau que le bon Dieu fait avec nos actions. Eh bien, que doit faire le pinceau? Le pinceau, il doit se laisser faire. Il est dans les mains d'un artiste. Ah non, mais je peux faire. C'est pas possible. Que doit faire le pinceau? Il doit se laisser parfaitement conduire. Il serait ridicule que le pinceau fasse des observations à un maître terrestre et ait la prétention de l'améliorer. Tu n'es qu'un pinceau. Mais si la sagesse éternelle, Dieu lui-même, se sert de nous comme instrument, nous ne pourrons faire le maximum et le plus parfait que si nous nous laissons complètement conduire par lui et en tout. Et Saint-Père Kolb dit, c'est comme des petits duvets, des petites plumes d'oiseaux, des petits duvets de petits oiseaux là, qui volent selon le vent, etc. Il faudrait qu'on soit comme ça par rapport à la volonté de Dieu. Ensuite, par l'agilité, le corps glorieux peut passer d'un lieu à un autre en un court instant sans être contraint par l'obstacle des distances. De même, soyons empressés, c'est des applications spirituelles, hein, de même, soyons empressés à accomplir sans retard la moindre volonté de notre Père du ciel. Donc, encore un chartreux. L'agilité spirituelle qui vient en nous de l'Esprit de Dieu n'est pas cet empressement inquiet, dissipant, présomptueux de l'âme qui ne réfléchit à rien et qui ne doute de rien, très orgueilleuse. L'agilité que nous devons désirer, acquérir ou augmenter en nous est la promptitude forte, sage et constante à faire ce qui est du service de Dieu. En d'autres termes, c'est la ferveur. Spiritu ferventes, s'écrivait Saint Paul aux fidèles de Rome, voyez, soyez fervents en esprit. Donc une promptitude de la volonté, de notre volonté à faire la volonté de Dieu. Voilà. Enfin, la quatrième propriété des corps glorieux, c'est la clarté. Et bien que le chrétien, régénéré par la grâce, brille au milieu de ce monde de péché par l'éclat de ses vertus. Voilà. Il faut être des lys sur le fumier. C'est pas ça pour mépriser les pauvres gens aujourd'hui, hein. Bien sûr, mais c'est un lys qui les attirera à devenir des lys, voilà, c'est ça. Comme dit encore le Chartreux, c'est l'âme qui illumine le corps ressuscité. Eh bien, c'est de notre cœur que doit émaner le parfum de sainteté que nous avons à exhaler au dehors. Soyons des lumières ardentes et luisantes, ardentes par les affections, luisantes par l'édification. Par notre exemple, voilà, c'est ça. Il faut que les chrétiens, dans ce monde, eh bien, brillent par leur vertu et attirent les hommes de bonne volonté, parce qu'il y aura toujours des gens de mauvaise volonté, hélas, mais enfin, attirent les hommes de bonne volonté par leur vertu qui auront envie de faire pareil, de vivre cette vie-là. C'est pour ça que, eh bien, il y a continuellement, c'est pas en masse, mais c'est pas des petites gouttes, ça arrive régulièrement dans la tradition. La tradition au début, c'était rien du tout. Ça n'a pas arrêté de se répandre et ça continue. Et ce soir, il y aura une âme qui a été attirée justement et qui demande à rentrer, à de devenir chrétienne. Voilà. Eh bien, soyons, donnons envie d'être chrétiens par notre vie.